Seigneur éternel, notre Dieu, nous bénissons ton saint nom, nous te demandons de nous donner la grâce de dispenser droitement de ta parole, ô Père, à travers cette brève exhortation. Seigneur, je prie que tu élèves ton Fils. Oui, que tu l'élèves au-dessus de toutes choses, comme la gloire qu'il avait auprès de toi, et que tu lui donnes, que toi tu nous donnes la grâce vraiment de comprendre ce message, de nous laisser exhorter afin que cette exhortation puisse atteindre l'objectif pour lequel, Seigneur éternel notre Dieu, tu nous demandes de la relâcher. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Yeshua Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement brièvement nous exhorter tous à quelque chose dont on parle peu, hein, mais qui est une nécessité, puisque nous formons des communautés, il est possible de nous piétiner les uns les autres, et c'est pour cela que l'Éternel Dieu, l'Esprit de Dieu, a donné ce ministère dans l'Église. Mais ce que nous voyons, c'est que, bon, ce ministère existe, c'est pour tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus, dans le Messie, Yeshua, ce ministère leur a été donné. Mais néanmoins, c'est pas très populaire, hein. Aujourd'hui, les uns, les autres préfèrent apôtres, préfèrent évangéliste, pasteur, bon, c'est plus vendeur peut-être, ou bien ça, c'est plus gonflant, hein, si quelqu'un se présente comme apôtre ou bien comme chantre, même si le ministère de louange n'existe même pas dans la Bible, mais on le dit, celui-ci a un ministère de louange. Donc ce dont je vais parler aujourd'hui est une nécessité absolue, et en tant que croyant en Yeshua, nous devons bien dans le Messie Jésus, nous devons exercer ce ministère. Mais partout où nous tournons le regard, nous ne trouvons jamais ce ministère. D'abord, un ministère est un service ou bien une fonction dans l'Église, un service que Dieu confère à un croyant, à un de ses enfants, pour l'exercer pour lui, en faveur de l'Église, pour l'édification de l'Église, suite à un appel spécifique de l'Éternel Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui qualifie, et si nous voyons bien, les ministères tous appartiennent à Yeshua. Ce sont des ministères de Yeshua. C'est la fonction de Yeshua, tous les ministères. Il est apôtre, prophète, évangéliste, il est docteur, il enseigne la parole, il a montré durant tout son séjour terrestre ici, il a montré qu'il avait les cinq ministères au-delà, puisqu'il est de nature divine. Donc, nous voyons cela. Donc, en partant, la Bible nous dit qu'il a donné des dons aux hommes. Voilà, il a réparti ce ministère, ce service, cette fonction, hein, sur tous les croyants pour que l'Église puisse être édifiée. Il ne l'a pas donné à une seule personne. Pourquoi? Mais pour éviter que quelqu'un puisse prendre la place qui lui revient. Ce serait destructeur pour la personne elle-même. Donc aujourd'hui, je voudrais simplement parler du ministère de la réconciliation. C'est dans la Bible. Et nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus, le Messie, et qui a donné le ministère de la réconciliation. En effet, d'accord, voilà, puisque l'Éternel Dieu Elohim a donné dans le ministère de la réconciliation, en effet explique ce qui s'est passé, donne des détails, parce que l'Éternel Dieu ne dit jamais rien sans l'avoir fait lui-même, sans l'avoir exécuté. Regardons dans la première alliance. L'Éternel Dieu a dit à Abraham de se circoncire. Son fils s'est soumis à cette loi-là, puisque Yeshua a été circoncis. Vous voyez? En effet, Elohim était dans le Messie. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour le Messie, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Messie, sois réconcilié avec Elohim. Voilà, donc la Bible nous dit ici clairement dans 1 Corinthiens, que dans 2 Corinthiens plutôt, que l'Éternel Dieu nous a réconciliés lui-même à travers Yeshua, a réconcilié l'humanité avec l'humain à travers Yeshua, et il a donné également ce ministère donc de la réconciliation à tous les croyants, à ses enfants. Et l'auteur, l'Esprit Saint, explique que Yeshua était, Dieu lui-même était dans le Messie lorsqu'il réconciliait le monde avec lui-même. Il n'a pas chargé le monde de ses fautes, mais il a pris sur lui. De la même manière, vous savez, se réconcilier est toujours difficile parce que le contraire de la réconciliation, c'est la distanciation, c'est la séparation, c'est l'inimitié, c'est la guerre, c'est les querelles, c'est les disputes. Alors que la réconciliation vise à rapprocher, à fraterniser, à renouer contact, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est très difficile à nous, être humains, parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Notre ego a été blessé. Notre ego a vu celui-ci-là. Non, je ne peux pas. Mais la Bible nous dit ici que l'Éternel Dieu a donné le ministère de la réconciliation. Il ne l'a pas donné spécifiquement à quelqu'un, mais il l'a donné à toute l'Église. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont ce ministère de la réconciliation. Mais c'est quelque chose de très, très difficile. Les chrétiens n'ont jamais été aussi divisés. On le voit dans la multiplication des assemblées. Même dans certains pays, on peut avoir sur la même rue 8 assemblées, 12, 10, une dizaine. Allez voir en Afrique, au Togo ou bien ailleurs encore, dans d'autres pays africains. Hein? Ou bien même aux États-Unis. Allez voir aux États-Unis. Où les églises sont reparties selon la couleur de ta peau. Selon la couleur de ta peau. Mais ceux-là, ces gens disent qu'ils invoquent le même Seigneur, le même Jésus. Or, Jésus n'est pas divisé. Nous comprenons cela, pourquoi ce ministère-là existe. Mais ce ministère n'est jamais mis en exergue dans l'église. Et ce ministère de réconciliation, qui est la propriété de Dieu lui-même et qui a été expérimenté par Dieu lui-même, par l'Éternel Dieu lui-même. Donc maintenant, il nous charge à nous envers qui il a exercé ce ministère de la réconciliation de faire de même. Yeshua a dit, soyez mes imitateurs, soyez les imitateurs de Jésus. Non, c'est Paul qui dit ça, soyez mes imitateurs comme je le suis du Messie, mais soyez les imitateurs du Messie. Soyez les imitateurs du Messie. Ou bien, Dieu lui-même a dit aux Israélites, soyez saints, comme je suis saint. Soyez séparés, soyez à part. Ne faites pas comme les autres, comme moi aussi. Je suis séparé de ce monde. Dans ce ministère-là, nous a été tous conférés. Et si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons exercer ce ministère envers les autres qui nous ont blessés. Parce que être réconcilié avec l'Éternel Dieu implique de facto d'être réconcilié avec les autres. Vous voyez, parce que quand on voit la parole de Dieu, la loi de Dieu, les 10 paroles, les 10 commandements, Yeshua l'a résumé en deux mains, en une seule. Il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et il a dit que les deux sont semblables. Cela veut dire qu'il a résumé à une seule loi, à une seule parole. D'accord? Ce qui fait que quand tu es réconcilié avec Dieu de facto, tu dois chercher à te réconcilier donc avec ceux-là qui t'ont offensé ou bien avec tes frères et sœurs qui t'ont offensé. C'est comme ça, puisque nous sommes devenus des ambassadeurs et nous devons prêcher ce ministère de la réconciliation, cette réconciliation, nous devons le prêcher aux païens, à ceux qui sont éloignés de Dieu et envers nos frères et sœurs qui sont dans le Messie. Nous devons l'exercer, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Mais nous voyons que ce verset-là, cette portion de verset, le verset 18 et 19, est encadré par deux versets. Le verset 17, qui nous dit, c'est un préalable, parce que tu ne peux pas exercer le ministère de réconciliation si toi-même tu n'es pas passé par là. C'est pourquoi il est dit dans le verset 17, « Si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » C'est-à-dire, quand on dit les choses anciennes sont passées, c'est que les blessures anciennes sont passées. Parce que la réconciliation implique le pardon. C'est pourquoi dans la prière que Yeshua a enseigné à ses apôtres, il nous est demandé de pardonner à nos prochains, de pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, l'Éternel Dieu ne te pardonnera pas non plus. Donc, ne t'étonne pas que les choses durent dans ta vie, qu'il y a des choses qui ne vont pas, ainsi de suite. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous avons une bonne relation avec l'Éternel Dieu, nos relations avec les êtres humains aussi seront correctes, seront bonnes. En tout cas, excepté les persécutions, bien sûr. Même si les gens nous persécutent, la Bible nous dit d'aimer nos persécuteurs. Oh, nos frères qui sont dans la même assemblée que nous, qui chantent, puisque nous chantons ensemble, nous prions ensemble, n'est-ce pas? Mais nous devons être réconciliés avec eux. Mais d'où viennent ces inimitiés-là? Donc, je disais tout à l'heure que le préalable pour l'exercice du ministère de la réconciliation, c'est d'avoir bénéficié nous-mêmes de ce ministère. Puisque la Bible nous dit que ceux qui sont dans le Messie sont devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, sont devenues nouvelles. Et la conséquence de cela, c'est que nous avons été réconciliés avec l'Éternel Dieu. Et Dieu, l'Éternel Dieu lui-même, était dans le Messie, en réconciliant le monde avec lui-même. Et cela implique aussi que nous sommes devenus des ministres de la réconciliation, des ambassadeurs. Et nous proclamons cela. Si nous pouvons le proclamer à ceux de dehors, mais nous devons aussi le proclamer à ceux de dedans. C'est ce que Zachée a fait. Un exemple concret du ministère de la réconciliation, ou bien de la réconciliation, après la repentance, c'est le comportement de Zachée. Lorsqu'il était né de nouveau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, si j'ai blessé les gens, ok, je m'en excuse, ou bien je donne au quadruple. Mais bien, si je les ai offensés, je les ai trichés. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce ministère est de plus en plus rare dans les assemblées. Il n'a jamais eu autant de divisions des frères et sœurs, même des églises ou bien des communautés, moi je ne les appelle pas des églises, des communautés prient des fois les unes contre les autres. Oh mes frères et sœurs, oh comment nous sommes tombés si bas, nous nous sommes éloignés de la vraie parole de Dieu, même au sein d'une même communauté. Les gens s'entre-déchirent, mais il suffit de voir sur les réseaux sociaux comment on insulte, comment les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, au lieu de prêcher le Messie, Yeshua, Jésus, prêchent plutôt leurs dirigeants. Prêchent leur doctrine, prêchent, ils opposent les pasteurs les uns comme les autres. Et même ces pasteurs s'entre-déchirent, s'insultent. Oh, jusqu'où Ô Seigneur, viens à notre secours. Viens véritablement à notre secours. Nous avons besoin de se colir là pour bien voir où nous sommes tombés. Nous avons besoin de ce ministère de la réconciliation. Et je vous dis que ce ministère, tout enfant de Dieu là, si toi tu penses que tu n'as pas ce ministère, tu te trompes. D'accord? Tu te trompes. Il est vrai que dans chaque communauté, il y a eu beaucoup d'amertume, beaucoup de blessures. Même moi qui vous parle, c'est sûr que j'ai blessé des gens, puisque j'étais dans un groupe avant, et je savais que j'étais très dur, j'étais vraiment rigoriste, comme on dit. J'étais vraiment dur. Voilà, donc j'étais dur. Mais bon, et j'ai manqué beaucoup de sagesse. Ça, c'est vrai, c'est vrai. J'ai piétiné des gens, j'ai dit des choses qui ont blessé les gens, j'ai choqué des gens, même dans mon comportement, parce que la dernière fois, il y avait une sœur qui m'avait appelé, qui m'a rappelé quelque chose. Moi, je ne me souvenais même plus. Je ne savais pas que je me suis comporté comme ça, quoi. Moi, j'ai fait les choses naturellement. Mais voilà, mais elle a été choquée. Quand elle m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai dit? Je m'en suis excusé. Donc, mes frères et sœurs, personne n'ira se réconcilier devant le tribunal du Messie. C'est ici-bas que nous devons nous réconcilier avant de fermer nos yeux ici et de l'ouvrir sur l'au-delà, mes frères et sœurs, sur le royaume qui vient. Mes frères et sœurs, donc je vous en supplie, si vous avez quelque chose, ou bien que je vous ai blessé par mes paroles, ou bien j'ai dit quelque chose qui ne vous a plu, écoutez, de grâce, appelez-moi, ou bien envoyez-moi un SMS, envoyez-moi un message WhatsApp pour que je puisse m'en excuser. D'accord, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez chaque fois, voilà, c'est un message que je fais à dessein. Vous savez, si je vous raconte un peu comment ça s'est passé, comment ce message est venu, vous n'en croirez pas. Je n'ai pas réfléchi à faire ce message. Mais ce message m'est venu comme ça. J'étais là, comme ça, en train de réfléchir et de méditer. Et puis voilà, le message est venu, la réconciliation. Alors, j'ai cherché et j'ai vu dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, qu'il y a un ministère de la réconciliation. Je me dis, tiens, merci Seigneur, c'est quelque chose qu'on ne prêche jamais. Hein? La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. L'amour implique la réconciliation. Voilà, l'amour esprit implique la réconciliation. Vous savez, en hébreu, le mot amour veut dire ahava. Et le nombre de ce mot est 13. Amour. Et un deuxième mot, ehad, uni. Uni ou un, ehad en hébreu, uni ou un, a aussi son nombre également est 13. 13 plus 13 égale à 26. Or, 26, c'est le nombre du tétragramme. C'est le nom de Dieu. Donc, lorsque nous prononçons le nom de l'éternel Dieu, qu'on a traduit par éternel, cela veut dire amour et unité. Amour et unité. Donc, l'amour et unité, d'accord ? S'oppose donc à l'amertume, s'oppose à l'inimitié, s'oppose à aux disputes, s'oppose à la séparation. Donc ce mot, l'éternel, le tétragramme, qu'on a traduit par éternel, veut dire réconciliation, rapprochement, fraternisation, communion fraternelle, on le dit, koinonia en grec, on le dit. Mes frères et sœurs, nous avons encore des choses. Donc, si toi qui m'écoutes là, tu te souviens, c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5, vous voyez, Matthieu 5, le verset 24, même à partir du verset 23, on nous dit, si donc tu présentes ton offrande, ou bien tu pries vers l'autel, que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ah, c'est ce que la Bible nous dit. Dans Romains 12, le verset, Romains 12, le verset 18. On nous dit, si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Je sais que des fois, il est difficile de se réconcilier avec certaines personnes. Mais nous n'avons pas besoin de convaincre la personne à tout prix. Mais nous pouvons, nous, de notre côté, faire le nécessaire. La Bible nous dit que si tu vas et que tu essaies de t'entendre avec ton frère et qu'il ne t'écoute pas, prends quelqu'un d'autre, un frère, un ancien, tu y vas. Si la personne n'écoute pas, qu'elle soit regardée comme un païen. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Hein, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'il faudrait faire et arrêter de se déchirer et arrêter de s'invectiver, de mettre nos doctrines au-dessus de la parole de Dieu. Nous croyons ça. Par exemple, l'exemple de la sanctification. Il y en a qui disent que bon, la sanctification est spontanée, d'autres disent que la sanctification est progressive. Oui, il y a la foi, les deux à la fois. Lorsque nous naissons de nouveau, l'Éternel nous met à part. La sanctification, le mot sanctifié, Kadosh, ne veut pas nécessairement dire que tu es sans péché. Hein? Puisque la Bible nous appelle des saints lorsque nous naissons de nouveau. Donc, l'Éternel, Dieu, c'est séparé, mis à part du péché, mis à part de ce monde. L'Éternel te met à part de ce monde, donc il te sanctifie. Et maintenant, il t'apprend progressivement à vivre sans péché, à te délester de ta nature humaine, à te délester de ta vie charnelle. Ainsi de suite, c'est pourquoi la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et progressivement, donc nous marchons, nous grandissons dans la sainteté, dans la sanctification. Donc, ce sujet a séparé des gens. Ce sujet a entraîné des disputes, a entraîné des séparations, ou bien des divisions, des assemblées. Même dans un pays africain, il y a quelques années, les gens se sont affrontés à coups de fusil. Chrétien, ah là 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 là, chrétien. Lorsqu'on enlève le H, oui c'est ça non? Lorsqu'on enlève le H et le E, ça devient crétin, hein? N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Si toi qui m'écoutes, tu as quelque chose, vous savez, nous avons tous un passé, mes frères et sœurs. Nous avons tous un passé et nous avons blessé des gens. Même si ces gens ne nous le disent pas, nous les avons blessés. Nous sommes comportés d'une certaine manière. Quand l'Éternel Dieu, l'Esprit Saint, met l'accent sur ces choses, la première chose à faire, c'est d'aller te réconcilier avec cette personne. En tout cas, si la personne est toujours là. Ou bien, c'est d'aller demander pardon, mes frères et sœurs. Et faites votre part, et le Seigneur fera la part chez l'autre aussi, si l'autre est éloigné, ainsi de suite. Mais comme je le dis, et des fois, l'autre peut refuser de se réconcilier avec toi. Toi, tu as fait ta part, tu laisses les choses à l'Éternel Dieu. Et c'est l'Éternel Dieu, l'Esprit de Dieu, qui fait le travail après. Le pardon n'est pas naturel. Le pardon est surnaturel. Demandons cela à l'Éternel Dieu. Sinon, c'est nous qui sommes rongés de jour en jour par cette amertume, par cette colère, par cette inimitié. La Bible nous dit déjà que celui qui est en colère est déjà un meurtrier. Donc, mes frères et sœurs, avant de prêcher la paix aux autres, avant d'aller dans le monde évangélisé, de prêcher que c'est les païens doivent se réconcilier avec Dieu. Réconcilions-nous d'abord nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de la même communauté. de la même communauté. Moi, j'ai déjà vu des choses comme ça où il y a certains membres de l'assemblée qui ne parlent pas au pasteur ou bien qui ne se parlent pas, mais qui viennent, qui prennent la communion, qui chantent des cantiques. Non, c'est de l'hypocrisie. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu déteste, hait les hypocrites. C'est le verbe haïr qui a été utilisé. Donc, si nous sommes dans le Messie, nous sommes une nouvelle créature. Et ce ministère de la réconciliation fait partie de notre comportement, de l'arsenal, de l'équipement que l'Éternel Dieu nous a conféré. Parce que lui-même est passé par là, lui-même était dans le Messie pour réconcilier le monde avec lui-même. Il n'a pas chargé les hommes de leur faute, donc nous aussi ne chargeons pas les autres de leur faute. Mes frères et sœurs, nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Nous faisons tous des erreurs, sans exception. Personne n'est parfait. Mais la Bible dit que nous serons rendus semblables à Yeshua lorsque la trompette sonnera. Ben oui. Là, nous serons rendus semblables. Là, nous n'aurons plus de péché. Mais tant que nous sommes ici, voyez, nous pouvons nous repentir même jusqu'à la dernière seconde de notre vie ici-bas. Ici-bas, lorsque l'Éternel Dieu a fait le nécessaire à travers le Messie, il a mis à nous cette parole de la réconciliation. Pas avant, pas avant. Il faut une transformation de notre manière de penser, de notre manière de voir. C'est dans Romains 12, je ne sais plus, mais qui a dit d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Voilà. Et l'Éternel Dieu nous transforme progressivement. D'accord, mes frères et sœurs. Donc, ce message est venu vers toi. Comment ce message te trouvera, ou bien comment ce message t'a trouvé, mon frère, ma sœur? Fais le nécessaire. Je vous ai dit que je ne devais pas parler de ça. Je devais continuer à parler de mes versets de la semaine, de commenter 1 Samuel 17 à partir du verset 12, lorsque ce message m'est venu. Je sais que nous avons tous besoin de ce message. Sûrement que quelqu'un ici sur cette plateforme, ou bien quelqu'un quelqu'un dans ce monde, ou bien parmi les frères et les sœurs, a besoin de ce message pour faire le premier pas, mes frères et sœurs. Il est vrai qu'il y a des situations où on ne peut pas de go vouloir se réconcilier avec la personne qui vous a blessé, avec votre agresseur, avec, je ne sais pas quoi, le frère, la sœur qui vous a blessé. Mais faites le premier pas en mettant ce sujet dans la prière. C'est ça le premier pas à faire, en mettant cela dans la prière, en étant disposé. Maintenant, Seigneur, oui, je veux bien aller vers la réconciliation parce que toi-même, tu l'as fait. Tu n'as pas chargé les hommes de ces fautes-là, de leurs fautes. Dites-moi, je voudrais dire quelque chose. Dites-moi, mais excusez-moi, mais la faute ou bien le péché que les hommes ont commis envers Dieu, est-ce que ce péché-là est inférieur ou bien est inférieur ou bien est peu de choses par rapport aux blessures que ton frère ou ta sœur t'a infligées, mes frères et sœurs? Souvent, quand je discute avec les gens, ou bien si c'est des gens qui sont des chrétiens, ou bien qui ont une connaissance, je leur pose la question à la fin: avez-vous plus souffert que Yeshua? Alors, ils disent non. Alors, je dis, ok, bon. Alors, donc, je ne minimise pas ta souffrance. Mais alors là, donc, oh, c'est bon. Tu peux continuer de prier. Tu peux continuer de faire ceci. Tant que tu n'as pas souffert plus que Jésus, plus que Yeshua, alors donc, oh, continue de prier. Ne te plains pas. Continue de chercher à lui plaire tous les jours et continue de tenir face à l'adversité, face à la persécution, face à tes souffrances, pas face à tout ce qui peut arriver. Mes frères et sœurs, nous devons nous réconcilier. C'est un impératif. Et l'Éternel nous a donné le ministère de la réconciliation. Un ministère est donné pour être exercé, n'est-ce pas? C'est ce que nous apprend la parabole des talents. Ce ministère est là pour être exercé et non être enfui dans le sol quelque part. Non, ce ministère t'est donné aux frères et sœurs dans le Messie pour être exercé. Et lorsque nous l'exerçons, nous devenons des ambassadeurs. Sans cela, nous ne pouvons pas. Et à travers nous, Dieu, l'Éternel Dieu, s'adresse aux gens autour de nous lorsque nous prêchons cette réconciliation. Mais nous ne pouvons pas prêcher cette réconciliation si nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés avec l'Éternel Dieu. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés avec nos frères et sœurs, mes frères et sœurs, sinon c'est de l'hypocrisie. Alors, je vais terminer en parlant d'un exemple palpable dans la Bible qui illustre mes propos. Nous connaissons tous Jacob, Yaakov et Ésaü. Voilà. Jacob, comme son nom l'indique, talon, le talonneur, le fourbe, le malin. Il a tout fait fou pour subtiliser le droit d'aînesse à son frère. Néanmoins, puisque le droit d'aînesse lui a été destiné par l'Éternel Dieu, je suis sûr que l'Éternel Dieu avait son plan. Mais il a dévancé. Il n'était pas patient. Lui et sa maman qui ont fait ça. Donc, ça a créé une dispute jusqu'à ce que son frère ait juré de tuer son petit frère. Donc, il a dû fuir, aller en exil. Et à la fin de son exil, donc, il revenait donc, à Cana, puisqu'il n'était pas prévu de rester à Charan. C'était pas prévu, puisque c'est la terre de Cana qui a été promise à Israël. Et nous voyons que il a eu encore les mêmes comportements chez Laban, son oncle. Et Laban aussi était un rusé, un tordu, et comme lui, comme Jacob. Donc, et lui aussi a rusé un peu son neveu. Tout compte fait, bon, entre parenthèses. Bon, en tout cas, il revenait donc de cet exil et arrivé à un lieu qu'il a appelé Péniel, ou bien la face de Dieu. Péniel, la face de Dieu, j'ai vu la face de Dieu. La Bible nous dit, parce que Jacob a entendu que son frère Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes de guerre. Il faut dire que Ésaü est un homme de guerre, un homme violent, si on peut le dire. Un homme de guerre, un homme violent. Et Jacob avait élaboré une stratégie. Une stratégie pour amadouer son frère ou bien pour pouvoir se dégager si vraiment les compagnons d'Ésaü attaquaient sa famille et ses serviteurs. Voilà, il essaie tout pour l'apaiser. Il avait son plan encore, il avait encore son plan. Vous voyez, il avait encore son plan. Et la Bible nous dit qu'il resta seul et un homme est venu lutter avec lui. Bon, je pense que c'était le Messie, Jésus, avant son incarnation. Et cette lutte-là, cette nuit-là, Jacob a été changé. Puisqu'il marchait d'une certaine manière avant, il marchait droit. Maintenant, il ne marchait. La Bible nous dit qu'il boitait. À la sortie de cette lutte ou bien de cette conversation, donc avec, je pense que ce n'était pas une lutte physique. En tout cas, le verse, on peut en hébreu, il y a des gens qui ont fait d'autres commentaires là-dessus. Donc voilà, mais bon, je n'entre pas dans les détails. Donc, cette personne, en tout cas, cet être angélique, cet être spirituel est venu lutter contre lui et a démis donc la jambe de la hanche donc de Jacob, ce qui fait que Jacob ne marchait plus de la même manière. Donc il y a eu un changement. C'est ce que je voudrais dire. Donc tout ce qu'on nous raconte là veut dire que il y a eu un changement dans la vie de Jacob, dans sa manière d'être de Jacob, ce qui fait que son nom a été changé. C'est comme s'il est passé par un processus de nouvelle naissance. Voilà, par nouvelle naissance. Son nom ne sera plus Jacob, mais sera Israël. Israël. Donc voilà. Donc sans ce processus de nouvelle naissance, la rencontre avec Ésaü se serait très mal passée. C'est ce processus qui a permis à l'Éternel Dieu d'apaiser, de poser sa main sur Ésaü. Parce que Jacob lui-même a changé. Il n'était plus, il n'est plus à la sortie de cette conversation, de cet entretien donc avec cet être angélique. Donc, où la face de Dieu, la face de Dieu, il faut dire que le mot Pélin veut dire la face de Dieu, hein, qu'il a vu là, la face de Dieu. Donc, voilà, la face de Dieu Pélin. Il y a un ange, un être qu'on appelle l'ange de la face de Dieu, l'ange de la face. Et cet ange-là, cet être correspond, en tout cas selon moi, au Messie avant son incarnation. Mais c'est une autre étude qu'on fera ensemble, en tout cas que je vais faire bientôt, si l'Éternel me donne l'autorisation sur le Messie dans la Torah, que j'ai intitulé Mi-Ata Yeshua, selon l'expression de Paul, l'apôtre sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur Yeshua? Mi-Ata Yeshua. Qui es-tu, Seigneur Yeshua? Donc voilà, Seigneur Jésus. Donc, c'était ça. Donc, Jacob a été changé, comme également le 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous le dit. Donc, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ici, puisqu'il est devenu Israël. Les choses anciennes sont passées. Il n'est plus le talonneur, il n'est plus le fourbre, le rusé, mais il est devenu Israël. D'accord? Voilà. Et c'est comme ça, après cette transformation, que Jacob, Israël, a rencontré Ésaü et avec ses 400 hommes. Et vous avez vu, c'est dans Genèse 32, hein, Genèse 32 et Genèse 33. Et nous voyons que la rencontre donc avec Ésaü s'est bien passée. Et le verset 5 nous dit, Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda, qui sont ceux-là pour toi? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés, que Elohim a accordé à ton serviteur. A accordé à ton serviteur. Voilà. Que Elohim a accordé à ton serviteur. Donc voilà, donc c'est ça. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent, se prosternèrent. Ouais. Et se demanda, à quoi destine tout le camp que j'ai rencontré? Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Il appelle mon son Seigneur. Quelle humilité, hein? Vraiment, il a été vraiment transformé. Jacob en Israël. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Il a même appelé, alors qu'il voulait le tuer avant. Garde ce qui t'appartient. Jacob répondit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. Vous voyez, il a voulu réparer le tort qu'il a causé à son frère. Mais néanmoins, son frère aussi n'était pas tout blanc dans cette affaire, puisque et lui aussi, il a vendu son droit d'aînesse. Après, il a regretté. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Elohim, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta. Voilà la réconciliation des deux frères. Et Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Parce que Ésaü voulait l'amener ailleurs, loin du pays de Canaan. Or, ce n'était pas ce que l'Éternel a prévu pour Jacob. Ésaü a hérité Séir, la montagne de Séir en Édom. Et puis Jacob, le pays de Canaan. Le verset 15, Ésaü dit, « Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. » Jacob répondit, « Pourquoi cela ?»« Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Donc, ils se sont séparés, ils sont repartis en paix. Quant à Jacob, il partit pour Soukhot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on appelait cet endroit Soukhot. Donc voilà, vous voyez que les choses s'étaient bien passées entre les deux. Il y a eu réconciliation, il y a eu échange de cadeaux, échange de cadeaux. Dans certains pays, la réconciliation se termine par un repas, surtout au Moyen-Orient, comme cela s'est fait entre Jacob et Laban, son oncle. Ils ont mangé ensemble. Ici, ils n'ont pas mangé ensemble, mais c'était des cadeaux qui ont été échangés, donnés plutôt. Donc, Jacob a offert des présents pour se faire pardonner donc à son grand frère. Voilà un exemple concret de réconciliation. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des cadeaux aux uns et aux autres, mais de réparer le passé si l'on peut. Réparer ce passé, nous savons qu'on ne peut pas réparer ce passé, mais nous pouvons nous comprendre. Nous pouvons nous comprendre, nous pouvons vraiment nous discuter, nous pouvons, même si nous ne redeviendrons pas les meilleurs amis du monde, au moins nous ferons la paix entre nous, mes frères et sœurs. Tendons vers cela, mes frères, parce que si cela reste et que tu ne fais rien, sache que ce message est venu vers toi, mais que tu ne l'as pas mis en pratique, mes frères et sœurs. Tu ne l'as pas mis en pratique, mes frères. Moi-même, j'ai mis ce message en pratique. C'est pourquoi je peux en parler maintenant sans arrière-pensée, sans honte, sans hypocrisie, mes frères et sœurs. Et si vraiment j'ai oublié quelqu'un, j'ai piétiné quelqu'un, ou bien voilà, j'ai dit quelque chose qui a blessé quelqu'un. Oh, mes frères et sœurs, écrivez-moi, s'il vous plaît. D'accord, écrivez-moi, s'il vous plaît. Écrivez-moi, s'il vous plaît, donc, afin qu'on règle ça. Parce que le Dieu, le puissant Dieu d'Israël, nous regarde, elle, Eloé Israël, Eloé Israël nous regarde. Dieu, le puissant Dieu d'Israël, nous regarde, mes frères et sœurs. Donc, je vous en conjure, c'est une exhortation qui est un peu longue, mais je vous en conjure, mes frères et sœurs, mais faisons tout pour rétablir cette relation, pour réparer. Savez, pour répéter, il y a une notion dans le judaïsme qui parle de la réparation du monde. Ils disent que le péché est comme le péché entraîne une brisure du monde. Donc, c'est pourquoi le Messie est appelé réparateur des brèches, réparateur de la brisure. Donc, le ressentiment, l'amertume, la colère, les inimitiés qui ne doivent même pas se trouver parmi nous comme des saints, qui ne doivent même pas se trouver comme des saints puisque nous sommes des saints. Toutes ces choses-là entraînent une brisure, entraînent une séparation, une distanciation entre nous et celui que nous avons blessé ou bien entre nous et celui qui nous a blessés. Si ces personnes professent la même foi que nous, alors nous devons nous réconcilier avec lui avant d'aller prêcher la réconciliation au monde. Parce que l'évangile, c'est un évangile de réconciliation. C'est un évangile de réconciliation après tout. Mes frères et sœurs, que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde et nous donne la grâce, vraiment, la grâce et la force d'obéir à sa parole, à ses commandements. Les temps sont proches, les temps sont mauvais. Mes frères et sœurs, faisons tout pour ne pas participer au péché d'autrui. La Bible nous dit que celui qui prononce le nom de Yeshua, qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. Mon frère et ma sœur, qu'en est-il de toi? Éloigne-toi de l'inimitié, éloigne-toi de l'amertume, éloigne-toi, parce que toutes ces choses-là sont comme des petits renards qui gâtent tes vignes, qui gardent tes vignes ou ta vigne. Alors, viens et exerce le ministère de la réconciliation, de pardon, de paix envers tes frères et tes sœurs. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Amen et amen. Pour terminer, je veux lire Romains. Romains 12, on nous dit, ne rendez le verset 17. Ou bien, mais on peut lire à partir du verset 9, hein, vraiment. On nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patient dans la détresse. Persévérez dans la prière, mes frères et sœurs. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Empressement. On dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec tous ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Mais oui, mes frères et sœurs, ceux qui pleurent, pleurons avec eux. Ceux qui se réjouissent, réjouissons-nous, nos frères et sœurs. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Oh, mes frères, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur, l'Éternel Dieu. » Mes frères et sœurs, la Bible nous dit aussi, « Mais d'aimer nos ennemis, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Là, ici, on nous parle de nos ennemis. Or, nos frères et sœurs que nous avons blessés, ou bien qui nous ont blessés, ne sont pas nos ennemis. Donc, nous devons normalement exercer ce ministère de la réconciliation envers eux ou envers elles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen et amen. Merci les frères et sœurs de m'avoir écouté.